que l'on finirait par découvrir le diamant. L'extraction, la taille et le polissage constituaient la principale source de revenus de la Namibie. Comme au Botswana, une entreprise d'économie mixte était détenue à part égale par l'État et De Beers, numéro 1 du secteur. Les mines de diamants se situaient essentiellement en mer et le long des côtes, faisant du nord du Kalahari une exception. D'après le cadastre, John Latham avait acheté ses premières terres en 1994, qu'il avait étendues au fur et à mesure que sa mine l'enrichissait. Un sacré coup de chance de tomber sur ce filon, prospecté par d'autres, mais jamais découvert avant lui. La mine de White Bunch était aujourd'hui vide, le filon épuisé. Latham disait vivre de l'écotourisme en semi-autarcie, mais tout cela semblait opaque. Et personne ne s'était beaucoup penché sur le personnage. John Latham, alias Yann Malan, si cela n'avait vu juste. Azuel harcela les fonctionnaires namibiens pour avoir accès aux documents qui l'intéressaient et retracer l'itinéraire de l'apprenti mineur. À en croire les registres qu'il réussit à se procurer, Latham avait exploité le filon 8 mois durant avant que celui-ci ne s'épuise subitement. La société minière fondée à l'occasion avait extrait des millions de carats à l'état brut en l'espace de ces quelques mois, engrangeant plus de 3 millions de dollars de bénéfices dans la seule année 1994. C'était encore l'époque des diamants de sang qui alimentaient les guerres en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Angola. Il avait fallu attendre 2003 pour qu'un régime international de certification des diamants bruts soit établi afin de contrôler le commerce mondial. Latham avait-il trempé dans ses exactions? Malgré les demandes du chef de la CASA, il s'avéra impossible de remonter les flux de capitaux issus de ces diamants. On disait que Latham creusait un puits avec ses ouvriers autochtones sur le terrain qu'il venait d'acquérir quand il était tombé sur le filon, pris dans la roche et la rivière souterraine. Latham n'avait pas fait appel à des spécialistes de l'extraction, comme De Beers, préférant exploiter le site avec ses ouvriers San, devenus mineurs de fonds sans formation spécifique. Aucun autre Namibien n'avait travaillé pour la société éphémère de Latham, qui avait réinjecté ses bénéfices dans l'achat des terres alentour pour constituer l'actuelle réserve de Wild Bunch. Latham en avait fait un lieu de tourisme haut de gamme, qui lui donnait un statut social et une occupation, le chiffre d'affaires couvrant la logistique d'une réserve animalière privée. Plus surprenant, Latham gardait l'usufruit de Wild Bunch, mais la propriété était au nom de son intendant, Encon, et des San de sa famille élargie. Une petite fortune qui lui faisait prendre beaucoup de risques. Personne n'était à l'abri d'un accident, et les premiers natifs étaient faciles à rouler. Azuel voulut recenser les mineurs San qui avaient extrait les diamants, mais là encore, tout restait opaque. Pas de fiches de salaire, d'adresse ou de prélèvements sociaux répertoriés, comme si ses employés étaient des esclaves, des fantômes. Il y avait des failles, mais par où s'engouffrer? Un de ses hameçons mordit bientôt. Ouya, c'était le nom qu'un fonctionnaire de police lui donna au téléphone. Le frère de Encon, un repris de justice qui avait travaillé à la mine. Il reçut sa fiche dans la foulée. Ouya était un ancien mineur de ce qui ne s'appelait pas encore Wild Bunch, né probablement en 1965 dans le Kalahari namibien. Il avait travaillé 8 mois au gisement de diamants de Latham, le temps qu'avait duré l'exploitation, puis à la réserve animalière, avant de vider les lieux quelques années plus tard et de sombrer dans l'alcoolisme et la délinquance. Une première affaire remontait aux années 2000, quand le dénommé Ouya avait été pris en flagrant délit de vol de voiture à Rundu. 3 mois de prison plus tard, il s'était exilé dans les déserts de bord de route, ne revenant en ville que pour de menus larcins. Vol, deal de marijuana, conduite en état d'ivresse, récidive. Ouya avait passé moins de temps en liberté qu'en prison, comme s'il s'y sentait mieux, avant de visiblement s'assagir. Plus de délits répertoriés depuis 3 ans. Réparateur de pneus, pouvait-on lire sur sa fiche de police, avec une vague adresse le long de la B3, à 2 heures de route du poste des Rangers. Azuel partit dans la foulée, de nouveau habité. Les camions vrombissaient sur la Trans-Caprivi Highway, où des vaches paresseuses vaquaient parfois sans se soucier du danger. Passé Rundu, une succession de hameaux et de villages s'étalait jusqu'à se perdre dans le désert du Kalahari. Azuel avait roulé à plus de 100, vitre ouverte, sûr que son instinct le menait sur la bonne piste. Il finit par ralentir à hauteur du seul réparateur de pneus du secteur.